Chapitre 12.
Fichtre! Oui, toi, mon garçon, tu t'appelles bien Fichtre!
Les hommes éclatèrent de rire et les femmes gloussèrent. Fitch se maudit intérieurement. Pourquoi fallait-il que ses joues deviennent aussi rouges que ses cheveux chaque fois que Maître Drummond faisait ce mauvais jeu de mots sur son nom? Il laissa tomber sa brosse dans le chaudron noirci qu'il tentait de nettoyer et courut voir ce que voulait le chef de cuisine. Alors qu'il longeait une des grandes tables, il percuta du coude une cruche en verre bleu cobalt que quelqu'un avait posée trop près du bord. Par bonheur, il la rattrapa juste avant qu'elle s'écrase sur le sol. Avec un soupir de soulagement, il la remit sur la table et la poussa plus près de la pile de flûtes de pain.
« Fichtre, tu te manies un peu !»
Fitch courut, s'immobilisa devant Maître Drummond et baissa les yeux. Ici, la servilité était de mise. S'il faisait mine de s'insurger parce qu'on se moquait de son nom, il récolterait une bosse sur le crâne et rien de plus.
« Oui, Maître Drummond ?»
Le chef de cuisine grassouillé s'essuya les mains sur le torchon blanc glissé en permanence dans sa ceinture.
« Fichtre, tu es le plongeur le plus maladroit que j'ai jamais vu !»«
Si vous le dites, maître !»
Drummond se hissa sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil à travers la fenêtre de derrière. Dans le dos de Fitch, un homme cria parce qu'il venait de se brûler en attrapant une poêle. En reculant, il renversa des ustensiles qui produisirent un vacarme de fin du monde. Personne ne lui passant de savon, Fitch comprit que ce maladroit n'était pas un Haken. Maître Drummond désigna la porte de service de la gigantesque cuisine.
« Va chercher du bois. Il faut du chêne et un peu de pommier pour donner du goût aux côtelettes. »«
Du chêne et du pommier. À vos ordres, maître. »
« Avant, repends au râtelier le chaudron à quatre poignées que tu vois là-bas, puis dépêche-toi de ramener le bois. »«
Oui, maître. »
Les grosses bûches fendues en deux qui alimentaient la rôtisserie étaient lourdes, et Fitch récoltait toujours des échardes plein les mains. Celles de chêne étant les pires de toutes, il en aurait pour des jours à souffrir. Au moins, le pommier était inoffensif.
« Et guette l'arrivée de la charrette du boucher. Elle devrait être là d'un moment à l'autre. » « Si elle a du retard, je tendrai le cou de cet imbécile Dinger !»
Fitch osa relever les yeux.
« Le boucher, maître ?»
Il n'osa pas poser la question qui lui brûlait les lèvres.
« Vous voulez que je l'aide à décharger ?»
Maître Drummond se plaqua les poings sur les hanches.
« Ne me dis pas que tu commences à réfléchir !»
Non loin de là, les filles de cuisine qui préparaient les sauces ricanèrent bêtement.
« Bien sûr que tu dois l'aider à décharger, pauvre abruti !» « Et si tu laisses tomber un quartier de viande comme la dernière fois, je ferai griller une de tes fesses à la place. »«
Oui, maître Drummond, »
dit Fitch en s'inclinant deux fois à tout hasard. Il recula puis s'écarta pour céder la place à la fille de laiterie qui apportait un morceau de fromage pour le faire goûter au chef de cuisine. Alors qu'il s'éloignait, une des préparatrices de sauce l'attrapa par la manche.
« Où sont les écumoires que je t'ai demandés ?»« Gilly, je te les apporterai dès que j'aurai.
Ne me prends pas de haut, Fitch !»
Gilly saisit le pauvre garçon par l'oreille et la lui tordit.
« Vous adorez ça, toi et tes semblables, pas vrai ?»« Gilly, je ne voulais pas, crois-moi, je n'ai que du respect pour les Andériens. Chaque jour je lutte contre ma vie de nature afin qu'il n'y ait plus de place dans mon cœur et dans mon esprit pour la haine ni le mépris. Je prie le Créateur de me donner la force de transformer mon âme imparfaite. » Et je l'implore de la faire brûler pour l'éternité dans le royaume des morts, si je n'y parviens pas. »
À force de la répéter, il connaissait cette tirade par cœur.
« Je vais chercher les écumoires, Gilly, si tu veux bien me lâcher. »« D'accord, mais dépêche-toi. »
En massant son oreille douloureuse, Fitch courut jusqu'à l'égouttoir où il avait mis les écumoires à sécher. Il en prit une poignée et les apporta à Gilly avec autant de révérence qu'il l'osa, sachant que Maître Drummond ne le quittait pas du regard. Connaissant le personnage, il préméditait sans doute de lui flanquer une bonne raclée pour le punir de ne s'être pas occupé plus tôt des ustensiles de Gilly, une négligence qui retardait le rangement du chaudron, la collecte de bois pour la rôtisserie et le déchargement de la viande. Il se fendit quand même d'une révérence en tendant les écumoires à Gilly.
« J'espère que tu daigneras assister à une réunion de repentance supplémentaire cette semaine, »
dit l'Andérienne en lui arrachant les ustensiles.
« Quand je pense aux humiliations que nous devons supporter des gens de ton espèce. » « Tu as raison, Gilly. J'ai besoin d'une séance de repentance de plus. Merci de me le rappeler. »
Gilly eut un rictus méprisant et retourna à la préparation de sa sauce. Honteux d'avoir cédé à sa perversité héréditaire et humilié une pauvre andérienne, même involontairement, Fitch courut chercher un autre garçon de cuisine pour qu'il l'aide à soulever l'énorme chaudron. Il débaucha Morlaix. Les bras plongés dans de l'eau bouillante, son collègue se montra ravi d'avoir une bonne excuse pour les en retirer, même si le chaudron pesait rudement lourd. Alors qu'il s'attaquait à la tâche, Morlaix jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'il pouvait parler sans se faire enguirlander. Avec sa musculature, soulever le chaudron serait moins difficile pour lui. Maigre comme un clou, Fitch haletait déjà sous l'effort.
« Ce sera le grand jeu ce soir !» souffla Morlaix avec un petit sourire. « Et tu sais ce que ça signifie ?»
Fitch hocha la tête. « Avec autant d'invités, il y aurait un boucan infernal. Les rires, les chants, les conversations, le bruit des couverts et celui des chopes. Dans cette confusion, avec des gens un peu partout, on servirait d'énormes quantités de vin et de bière, et les bouteilles et les verres encore à demi-plein ne seraient pas perdus pour tout le monde. C'est un des rares avantages quand on travaille au ministère de la Civilisation, » souffla Fitch.
Les muscles du cou tendus à craquer, Morlaix se pencha un peu plus sur le chaudron qu'il faisait glisser sur le sol.
« Si tu penses ça, » dit-il, « manifeste plus de respect aux Andériens. Sinon, tu n'en profiteras plus longtemps. » « N'oublie pas non plus que nous sommes logés et pas trop mal nourris. »
Fitch acquiesça. Il n'avait pas voulu se montrer insolent. Conscient de tout devoir aux Andériens, les vexer était la dernière chose qu'il désirait au monde. Mais parfois, oh, très rarement, il prenait la mouche un peu trop facilement. Bien entendu, son insensibilité et son ignorance étaient la cause première de ces déplorables malentendus. Comme toujours, il n'avait personne d'autre que lui à blâmer dans cette affaire.
Dès que le chaudron fut suspendu, Fitch roula de grands yeux et fit jaillir sa langue d'un coin de sa bouche. Une façon de confirmer à Morlaix qu'il boirait à s'en rendre malade ce soir. Requinqué par cette idée, Fitch sortit dans la cour pour aller s'occuper du bois. Après des pluies torrentielles, les nuages avaient consenti à filer vers l'est, laissant derrière eux l'odeur agréable de la terre détrempée. La journée de printemps qui se levait à peine promettait d'être chaude. Dans le lointain, les champs de blé, verdoyants cette saison, s'étendaient à l'infini. Quand le vent venait du sud, l'odeur iodée de la mer montait jusque dans les plaines. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, même si quelques mouettes tournaient dans le ciel. Fitch sonda l'avenue chaque fois qu'il venait chercher une brassée de bois, mais il n'aperçut pas l'ombre de la charrette du boucher. Avant qu'il en ait terminé avec le chêne, sa tunique imbibée de sueur lui collait à la peau. Par miracle, il avait réussi à s'en tirer avec une seule écharde, très longue, elle s'était fichée dans le gras de son pouce. Alors qu'il prélevait des bûchettes sur le tas de bois de pommier, il entendit le grincement caractéristique des roues d'une charrette. Abandonnant son travail en cours, il susauta sa blessure, tentant en vain d'emprisonner entre ses dents la partie la plus profondément enfouie de l'écharde. Dans la grande avenue bordée de chênes qui menait au domaine, il aperçut du coin de l'œil la silhouette massive de Farfadé. Le cheval de trait du boucher. La personne qui se chargeait de la livraison étant à demi cachée par le cheval, la distance l'empêcha de l'identifier. Une foule de gens approchait du grand domaine en même temps que le brave Farfadet. Des érudits qui désiraient consulter les trésors de la bibliothèque d'Anderit, des messagers qui apportaient des lettres ou des rapports, et une foule de livreurs à pied, en chariot ou à cheval. Fitch remarqua aussi plusieurs visiteurs en riches atours qui venaient pour des raisons qui le dépassaient. Les premiers temps, après avoir été engagé comme garçon de peine, Fitch avait tout trouvé immense. Le domaine, bien sûr, mais aussi la cuisine, où on aurait pu loger, selon lui, un village entier. Intimidé par tout ce qu'il voyait et par tous les gens qu'il rencontrait, il avait vite compris qu'il lui faudrait s'adapter s'il voulait rester dans son nouveau foyer, où on lui offrait un travail non payé, une paillasse et de quoi manger. Sa mère lui avait conseillé de trimer dur pour continuer à mériter tout ça jusqu'à la fin de ses jours. Il devrait en toutes circonstances faire de son mieux, obéir à ses supérieurs, à savoir quasiment tout le monde, et se plier aux règles en vigueur, même s'il les trouvait pesantes. Et si dur qu'il soit, avait-elle ajouté, il aurait intérêt à exécuter promptement tous les ordres qu'on lui donnait. Fitch n'avait pas de père, qu'il eût jamais rencontré en tout cas. Pourtant,
Certains hommes par le passé lui avaient paru susceptibles d'épouser sa mère, mais elle vivait toujours dans la chambre que lui louait son employeur, Maître Ibsen, un marchand prospère. Le bâtiment, entièrement occupé par des travailleurs, était en ville, près de la demeure de Maître Ibsen. Cuisinière hors pair, sa mère régalait le riche négociant et sa famille. Toujours trop occupée pour nourrir son propre fils, elle n'avait pas pu se consacrer vraiment à l'élever. Quand il ne participait pas à une réunion de repentance, elle l'amenait souvent dans la cuisine de son patron, où elle pouvait garder un œil sur lui en travaillant. En grandissant, il avait appris à faire tourner les broches, à transporter diverses choses, à laver la vaisselle, les petites pièces surtout, à balayer la cour, et même à nettoyer l'écurie où Maître Ibsen gardait son carrosse et un magnifique attelage. Quand il parvenait à la voir, sa mère était toujours très gentille avec lui. Contrairement aux hommes qu'elle fréquentait de temps en temps, elle se souciait de lui et de son avenir. Ses galants, au contraire, le voyaient comme une nuisance. Souvent désireux de rester seul avec leur conquête, ils l'expulsaient de la modeste petite chambre. Sa mère se tordait les mains, mais elle était bien trop timide et habituée à obéir pour intervenir. Ces soirs-là, Fitch dormait sous le porche de l'immeuble, dans une cage d'escalier ou dans un bâtiment voisin quand les gens étaient d'humeur accueillante. Parfois, quand il pleuvait, le palefrenier de nuit de Maître Ibsen l'autorisait à se réfugier dans l'écurie. Il aimait bien la compagnie des chevaux, mais supporter toutes ces mouches était difficile. Mieux valait cela, cependant, que d'être surpris seul le soir par des gamins andériens. Le matin, sa mère s'en allait au travail avec son nouvel ami, qui faisait presque toujours partie des employés de maison de Maître Ibsen. Alors Fitch pouvait retourner dans la chambre. En général, quand sa mère rentrait après qu'il eût passé la nuit dehors, elle lui ramenait une gâterie subtilisée dans la cuisine de son employeur. Elle aurait voulu qu'il entre dans le commerce. 4 ans plus tôt, faute d'avoir trouvé quelqu'un qui l'accepte comme apprenti, voire comme homme à tout faire, elle avait demandé de l'aide à Maître Ibsen. Jugeant Fitch en âge de gagner sa vie, il lui avait trouvé une place de garçon de cuisine dans le grand domaine du ministère de la Civilisation, un peu à l'extérieur de Fairfield, la cité voisine. Dès son arrivée, un des nombreux responsables du personnel avait fait un sermon au jeune Haken et à un petit groupe d'employés fraîchement embauchés comme lui. Il dormirait avec les autres garçons de cuisine, avait-il appris, et devrait se plier aux règles strictes de la maison. En gros, obéir sans poser de questions était la principale. D'un ton solennel, l'homme avait expliqué au nouveau serviteur qu'il travaillait dans l'administration la plus importante du pays. Depuis son magnifique palais, le ministre de la Civilisation, un poste d'une importance capitale, avait une influence sur presque tous les domaines de la vie en Andérite, et il ne rendait des comptes qu'au pontife en personne. Fitch pensait avoir été engagé pour travailler dans les cuisines d'un riche marchand. Comment sa mère avait-elle fait pour lui trouver une place dans un endroit aussi prestigieux? Il n'en savait rien, mais il n'en pouvait plus de fierté. Très vite, il s'aperçut qu'il s'agissait d'un labeur harassant et ingrat comme partout ailleurs. Même s'il n'y avait pas de quoi se rengorger, il continua à se réjouir qu'un Haken de plus soit parvenu à intégrer le personnel du domaine. Le ministère, avait-il peu à peu découvert, avait pour mission d'édicter des lois et des décrets afin d'assurer que la société andérienne reste un modèle d'exemplarité où les droits de chacun étaient équitablement défendus. Fitch ne comprenait pas pourquoi cette activité exigeait que tant de gens entrent et sortent chaque jour du palais. À vrai dire, il ignorait pourquoi on avait besoin d'une telle profusion de lois. Après tout, le bien était le bien et le mal était le mal. Quand il avait demandé des explications à un andérien, la réponse l'avait déconcerté. Selon ce fonctionnaire, on découvrait chaque jour de nouvelles manifestations du mal, et il convenait de les étouffer dans l'œuf. Si abscon que lui parut ce concept, Fitch n'avait pas insisté, car l'andérien avait déjà semblé s'offusquer de sa première question. L'écharde toujours solidement fichée dans la chair, il se pencha pour ramasser une bûchette de pommier. Dans l'avenue, la charrette du boucher approchait toujours. Un des visiteurs qui marchait à côté, un colosse vêtu d'un uniforme que Fitch ne reconnut pas, portait une étrange cape de fourrure qui semblait fabriquée avec des cheveux plutôt que des poils. L'homme arborait à chaque doigt une bague,
où était attachée une lanière de cuir qui courait le long des phalanges et venait se raccorder au bracelet de force, anormalement long puisqu'il lui couvrait aussi les avant-bras, qui enserrait ses poignets. Déjà étonné par les bottes cloutées d'argent du personnage, Fitch fut stupéfait de voir briller des anneaux de métal à ses oreilles et à son nez. Des armes terrifiantes pendaient à la ceinture du visiteur. Sur sa hanche droite, glissée dans une boucle de cuir, une hache à deux tranchants si recourbée qu'il se touchait presque, luisait sinistrement. Une masse d'armes à l'antique manche de bois noirci par l'âge, mais à l'embout muni d'un ergot acéré, oscillait sur son autre flanc. La boule de fer reliée au manche par une chaîne était hérissée de piques assez longues pour traverser le crâne d'un homme. Avec ses épais cheveux noirs, l'inconnu aurait pu être un Andérien, mais ses sourcils broussailleux démentaient cette hypothèse. Et à voir son cou de taureau presque aussi large que sa propre taille, Fitch sentit ses entrailles se nouer. Le genre d'homme qu'on préférait ne pas rencontrer dans une ruelle par une nuit sans lune. En dépassant la charrette, le guerrier géant laissa longtemps errer son regard sur la personne qui tenait Farfadet par la longe. Puis il accéléra et se concentra sur les fenêtres du palais, comme s'il cherchait à en repérer une en particulier.